Je veux juste lire une parole dans Deutéronome chapitre 7, du verset 6 jusqu'à la première partie du verset 8. Deutéronome chapitre 7, du verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. C'est toi que l'Éternel, ton Dieu, a choisi parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour qu'ils lui appartiennent. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est tourné vers vous et vous a choisi. Vous êtes en effet le plus petit de tous les peuples. Non, parce que l'Éternel avait de l'amour pour vous et qu'il voulait tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. C'est une parole tout à fait glorieuse. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu choisit un peuple en particulier et laisse de côté tous les autres peuples. Mais Dieu a choisi un peuple pour montrer en image à l'avance l'histoire du salut, pour annoncer l'histoire du salut, pour pouvoir donner ensuite les promesses, pour pouvoir établir son témoignage sur la terre, pour ensuite, quand le moment sera venu, et quand Dieu réconciliera l'humanité avec lui-même, pour ensuite inclure tous les peuples dans cette réconciliation. S'il vous plaît, veillez à toujours donner raison à Dieu en toutes choses. S'il prend Abraham, il sait pourquoi. Il n'a pas pris Nahor ou Tara. Il a justement pris Abraham. Et c'est là que les choses ont commencé. Mais ici, il s'agit maintenant spécifiquement du fait que le Seigneur s'est choisi un peuple pour faire connaître son témoignage sur la terre. S'il avait pris plusieurs peuples, il aurait eu de grandes difficultés avec tous, avec tout, avec tout. Mais ainsi, il a pris un seul peuple et a eu encore suffisamment de soucis et de besoins avec ce seul peuple pour pouvoir, comme je viens de le dire, annoncer à l'avance les promesses et en général toute l'histoire du salut à l'avance jusqu'à ce qu'elle trouve ensuite sa réalisation en Christ. Et ce qui est écrit dans le psaume 2 et qui a pu trouver son accomplissement dans de nombreux autres passages, exige de moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour récompense. Et aller dans le monde entier ensuite, annoncer l'évangile à toutes les nations, à toute créature. Mais Dieu devait bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a fait. Ce qui me frappe ici, c'est qu'il a dit, ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que les autres peuples, mais parce que le Seigneur vous aimait et voulait tenir le serment qu'il avait fait. C'est exactement la même chose pour l'Église qui a été appelée à sortir. Croyez-moi, Dieu a un petit reste uniquement pour pouvoir faire l'histoire du salut par la suite. Ceux qui pensent que nous sommes les seuls à entrer au ciel se trompent. Dieu en aura beaucoup qu'il amènera dans la gloire. Mais de même que Dieu a utilisé Frère Branham pour avoir une église locale afin de pouvoir apporter les messages, de même ici, Dieu a fait en sorte qu'il soit apporté et transmis plus loin, qu'il puisse être diffusé. Mais finalement, le Seigneur lui-même produira une grande récolte. Et je dois encore penser à ce matin, à la comparaison lorsque frère Branham a vu cette vision en 1933. Il a vu un arbre et puis il était écrit dessus la Trinité et puis un autre, il était écrit l'unité. Mais les deux étaient pleins de fruits. Parfois, nous pouvons juger rapidement et dire, ils sont faux, ils sont dans l'erreur, laissez-les partir. Non, il y a une différence entre un enseignement erroné et les personnes qui sont encore prisonnières dans cette dénomination. Et il faut tout simplement faire la différence. Réfléchissez un peu à cela. S'il n'y avait pas eu de Wycliffe en Angleterre et de Huss en CSSR pour aller le voir et pas d'autres à Rotterdam et ici chez nous. Et en Suisse, nous serions tous encore catholiques aujourd'hui. Et quand serait-il advenu? Il faut voir quel chemin Dieu a emprunté pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu d'Erasme et à Rotterdam, de Zwingli en Suisse et de Mélenchon et de Luther ici, où serions-nous tous restés? Dieu a pris des individus pour mettre les vérités bibliques sur le chandelier, pour ensuite mettre l'éclairage sur le chandelier pour beaucoup. Et pour cela aussi, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Regardez, frère Branham n'a pas regardé les autres avec mépris. Je pense encore à ce très vieux monsieur, le frère Bosworth, qu'il aimait profondément. Et je me souviens de Karlsruhe. Cet homme tenait les réunions de l'après-midi et parlait principalement de la troisième personne de la Trinité, du Saint-Esprit. Pouvez-vous imaginer cela? Pendant les réunions de William Branham, cet homme nous a fait comprendre l'importance de la troisième personne de la divinité, à savoir le Saint-Esprit qui opère tout en tous. Oui, il ne savait pas mieux. Le frère Branham a dit, et écoutez, maintenant frère Branham disait, cela avait été dit dans le témoignage. Frère Branham a dit, lorsque cet homme est rentré à la maison, dans la gloire, à plus de 80 ans, frère Bosworth, les membres de sa famille n'ont pas pu le saluer. Il a simplement serré les mains autour de lui et il n'y avait personne dans la pièce. Et quand on lui a demandé, mais qui est-ce que tu salues? Il dit, je vois ceux que j'ai conduits au Seigneur et je les salue déjà. Je vais les retrouver de l'autre côté, dans la gloire. Nous devons, vous voyez, simplement tout laisser à Dieu et ne pas juger. Nous devons dénoncer, c'est vrai, les systèmes pour ce qu'ils sont. Qu'il s'agisse du Conseil mondial des églises ou de l'église de Rome. Mais malheur à nous si nous plaçons des protestants ou des catholiques sous ce jugement. Nous n'avons pas le droit. Aucun d'entre nous n'a le droit de le faire. Ce sont des gens qui sont nés dans ce monde, dans une certaine foi ou superstition ou tradition. Et Dieu appellera encore une riche moisson. Vous pouvez compter là-dessus. Notre attitude envers les gens doit toujours être bonne et positive. Sinon, nous ne pourrons jamais les aider. Imaginez-vous que parfois, j'ai même parlé dans une grande conférence méthodiste dans le nord de l'Inde. Il y a quelques millions de méthodistes de l'époque de John Wesley. C'était l'âge d'or, comme on l'appelle. L'Empire anglais, s'est emparé d'environ 50 pays et des trois quarts de la Terre à l'époque. Et partout où il était, il y avait aussi des gens qui étaient sous cet empire. Mais j'ai pu annoncer l'évangile dans l'amour là-bas. Et c'était même un jour où j'ai prêché sur le baptême biblique dans la grande conférence au nom de Jésus-Christ. Et je pensais aussi que à chaque moment pourrait être le dernier où quelqu'un m'arrêterait. Et puis, ensuite, j'ai pu même leur montrer le film de William Branham. Il a été projeté dans la grande salle de conférence remplie de plus de 3000 personnes à la fin de la réunion. il faut distinguer, comme je viens de le dire, que Dieu choisit les hommes, hein, et pensez aussi à cela, frère Branham. Il dit, mes parents sont d'origine irlandaise et tous deux étaient catholiques. Aucun n'allait à l'église. Oui, que lui est-il arrivé? Dieu a posé sa main sur lui. Oui, il faut donc reconnaître, si Dieu nous a déjà ouvert les yeux et les cœurs, c'est parce qu'il nous aimait, parce qu'il avait un projet pour nous. Et je suis reconnaissant à Dieu pour vous tous. Mais restons sobres, ne méprisons aucun homme, aucune personne dans aucune église. Mais apprécions et respectons les toutes, pour voir si Dieu en appellera encore quelques-unes à sortir. Les personnes. Eh bien, ceci seulement pour introduction. Nous allons peut-être chanter un chœur, puis nous demanderons aux frères Kupfer et aux deux frères de venir directement devant. Nous sommes de tout cœur reconnaissants dans le Seigneur pour ces rapports. Je l'ai déjà dit ce matin. L'appel se fait de plus en plus fort que les frères soient dans ces pays et restent indépendants par la grâce de Dieu afin de pouvoir vraiment transmettre la vérité comme vérité. Il y a un passage, je crois, dans les Rois, c'est ce qu'a dit la femme. Maintenant, je reconnais que la parole de Dieu dans ta bouche est vraie, est vérité. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Mais regardez tout ce qui en a été fait par plus de 300 dénominations différentes au sein du Conseil mondial des églises. Et si l'on voulait encore poser des questions à ce sujet, chacun a sa propre opinion sur la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la même vérité qu'elle était ou qu'elle a été lorsque les prophètes l'ont prononcée. Et j'ai déjà constaté cela chez les frères. Ils n'ont pas d'ambition personnelle pour devenir ou être quelque chose ou pour être et pour attirer des disciples à leur personne. Non, ils ont un désir unique qui est de porter la parole révélée et que Dieu leur accorde la grâce. Quand je pense à tous les frères qui sont déçus parce que je n'ai pas pu venir et que l'on a déjà dit cela dans, comme on le dit dans le langage populaire, un homme, un chemin. Je ne peux pas être partout. Et en ce qui concerne les pays francophones, je suis de tout cœur reconnaissant à Dieu pour le ministère de frère Barillier et pour le ministère de nos frères, de tout mon cœur. Car il faut bien que la parole du Seigneur circule. Et je pense aussi maintenant à Galates 2. Ce n'est pas pour une heure. Là, Paul pouvait dire que, comme il dit, devant eux, nous n'avons pas non plus reculé une seule heure avec soumission, afin que le message du salut, l'évangile, subsiste parmi vous dans sa vérité. Peut-être que nous allons lire ce passage. Il s'agit vraiment de ne pas seulement prêcher, de ne pas seulement que les frères prêchent, mais que la prédication soit en accord avec la parole de Dieu et qu'on puisse prêcher en accord avec les Écritures, conformément à la parole de Dieu. Galates, chapitre 2, verset 3. Mais même Tite, qui m'accompagne et qui était pourtant un chrétien païen d'origine grecque, n'a pas été contraint de se faire circoncire. Quant aux faux frères qui s'étaient introduits pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ et nous réduire entièrement à l'esclavage de la loi, devant eux, nous n'avons pas non plus reculé une seule heure avec soumission, afin que le message du salut, l'évangile, subsiste parmi vous dans sa vérité. Bien-aimés, lorsque nous partons en voyage et que certaines questions bibliques, je l'ai aussi brièvement évoquées ce matin, surgissent à propos de diverses choses et notions, nous ne pouvons pas faire autrement que de dire ce que la parole de Dieu a dit. Et il n'y a pas d'homme qui ait le droit d'aller au-delà du contenu des Saintes Écritures. Un tel droit ne vient pas de Dieu. Dieu n'a rien oublié. Il a fait écrire tout ce que nous avions besoin de savoir et tout ce qui est nécessaire à la prédication, à la proclamation de sa parole. Et si pour finir, Dieu fait encore grâce à tout ce que nous pouvons concevoir et demander dans la pleine restitution, alors nous voulons la remercier de tout cœur. Quand il fera au-delà de ce que nous pourrons lui demander. Mais en ce qui concerne la prédication, les limites sont ici ces deux couvercles de la Bible qui forment la barrière vers la droite et vers la gauche. Il n'est pas possible d'aller au-delà. Dieu a vraiment tout dit. Ce qui est important, c'est que nous le comprenions et que nous restions dans la parole. Comme l'a dit notre Seigneur, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeuriez en moi. Et celui qui va au-delà de ce qui est écrit n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. C'est aussi ce qui est écrit dans la lettre de Jean. Restons donc à l'intérieur des Écritures et laissons le reste à Dieu. Ce qui me touche sur la base de la parole que j'ai lue, c'est ce qui suit, Dieu avait choisi Israël. Donc, ce que j'ai lu dans Deutéronome 7, Dieu avait choisi Israël et avait de très grandes difficultés avec ce peuple qu'il avait choisi. Il devait dire, au bout de 40 ans, qu'il a été très affligé de dire, mais ils n'ont pas connu mes voies. Puis, il dut dire de nouveau, m'avez-vous offert des holocaustes dans le désert? Et il dit alors non, vous ne me les avez pas offerts. Il ne s'agit pas seulement de parler d'élection ou d'avoir trouvé grâce devant Dieu. Vous voyez, ils avaient offert des holocaustes, mais Dieu dit, ce n'est pas à moi que vous les avez offerts. Vous voyez, la question va plus loin. Elle va plus loin. Dieu prend-il plaisir à nous dans ce que nous faisons? Extérieurement, prend-il plaisir à nous? Ce que nous faisons est-il fait pour le Seigneur? Dans sa volonté, est-ce que, comme l'a lu notre bien-aimé frère, est-ce que c'est fait pour sa gloire? Est-ce que c'est fait conformément à sa parole, dans sa parfaite volonté? Il ne s'agit pas seulement de faire quelque chose. Ce sont toutes des questions qui nous préoccupent. Si nous lisons dans Actes 7, que nous avons déjà lu aujourd'hui, puis encore plus loin. Et si vous lisez tous les versets du verset 30 au verset 43 dans Actes 7, vous serez d'abord dans la joie et la reconnaissance du verset 30 au verset 43. Mais ensuite, vient la grande tristesse. Plus on lit, en particulier à partir du verset 39, mais laissez-moi vous encourager, oui, peut-être lisons-nous d'abord du verset 39 et revenons ensuite au verset 30. Il est dit, mais nos pères ne voulurent pas lui obéir. Au contraire, ils le repoussèrent et aspirèrent à retourner en Égypte. Ici, il s'agissait de Moïse. Le prophète établi et envoyé par Dieu qui leur a apporté la parole de Dieu. Mais leur rébellion contre Moïse était une rébellion en fait contre Dieu. Leur refus d'écouter ce qu'il disait était un refus d'écouter ce que Dieu avait dit. Vous pouvez tous le lire ici, peut-être même au verset 35. Il est écrit, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» C'est précisément lui que Dieu a envoyé comme chef et comme sauveur par la médiation de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui aussi qui les a fait sortir du pays en opérant des miracles et des signes dans le pays d'Égypte, où, au bord de la mer Rouge et pendant 40 ans dans le désert. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, « Dieu vous suscitera du milieu de votre peuple un prophète comme moi. » Vous savez que c'était l'une des principales promesses. Et il est dit ensuite, « Celui qui n'écoute pas ce prophète, son âme sera exterminée. » Il n'est pas dit celui qui n'écoute pas Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel, mais celui qui n'écoute pas ce prophète. Lorsque Dieu se révèle sous la forme d'un homme, lorsqu'il devient le Fils de l'homme et qu'il exerce le ministère prophétique sur terre, selon la parole de l'Écriture, dans les temps anciens, auparavant, Dieu a parlé par les prophètes, mais à la fin des temps, il a parlé en son Fils. Et c'est pourquoi tous ceux qui l'écoutent vivront. Celui qui ne croit pas en lui et ne l'écoute pas ne peut pas vivre, ne peut pas vivre éternellement. Mais Moïse était à cet égard le type le plus parfait en ce qui concerne Christ, en ce qui concerne les prophètes. Ce n'était pas Ésaïe, cet immense prophète, ce grand prophète avec ses 66 chapitres qui a écrit toute l'histoire du salut, qui a dit un prophète comme moi. Ce n'est pas Ésaïe qui l'a dit, mais c'était Moïse. Que s'est-il passé? L'histoire du salut était préécrit. Il y avait un peuple qui était le peuple de Dieu et ce peuple était en esclavage. Et Moïse a été envoyé pour le faire sortir avec l'aide de Dieu, etc. Et ainsi de suite. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Le peuple de Dieu était perdu, asservi dans le péché. Il devait être racheté. Et le Seigneur est venu à nous et a fait cela. Mais cet après-midi, il s'agit de tout autre chose pour nous, d'un examen de conscience approfondi auquel nous devons tous nous soumettre, du premier au dernier. Il est dit encore au verset 40, il dira à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car de ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Il y a 2 ou 3 jours, j'ai réécouté le film anglais de Frère Branham. Je voulais le traduire en allemand sur une cassette vidéo. Et là, Frère Branham dit soudain, s'il y a encore une idole dans votre cœur, chassez-la. Et il dit, cela peut être une voiture, cela peut être une maison, cela peut être n'importe quoi. S'il y a quelque chose de ce genre qui prend la première place, faites sortir cette chose. Nous pensons parfois aux idoles, que ce sont des choses comme ça, quelque part dans des pays lointains, des statues, etc., des images. Non, le peuple tout entier est imprégné de ces choses. Et nous devons être vigilants pour que rien, mais vraiment rien, ne s'interpose entre nous et Dieu. Et surtout, pas pour l'inciter à la jalousie. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut nous avoir tout entier, corps, âme et esprit. Et pas seulement cela. Il veut que ce qui est fait soit fait selon sa parole, afin que cela soit à sa gloire. Il ne s'agit pas seulement de faire quelque chose, mais que cela soit fait selon sa parole. Laissez-moi continuer ici au verset 41. Acte 7, verset 41. Ils se firent donc alors une statue de taureau, offrirent des sacrifices à cette idole et prirent plaisir à l'ouvrage de leurs mains. Oui, cela peut aussi se produire. Cela peut arriver à un missionnaire. Cela peut arriver à n'importe qui de dire, regardez ceci, c'est donc le résultat de mon travail, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et voilà qu'une chose devient déjà une idole. Cela ne doit jamais arriver. Faisons attention. Je me suis parfois demandé pourquoi Dieu a permis certaines choses. Mais il connaît toutes les choses. Quelqu'un m'a dit récemment, au berceau, on ne nous a pas chanté le chant de tout ce que nous rencontrerions dans la vie. Et Dieu merci, nous ne le savons pas non plus. Mais à l'avance, mais une chose est restée dans notre cœur. Être quelque chose vraiment à la louange de son nom glorieux. Ce n'est pas toi, en toi et moi, en moi, que nous regardons avec plaisir. Nous ne nous regardons pas nous-mêmes avec plaisir, avec bon plaisir, mais c'est Dieu qui doit nous regarder avec bon plaisir. C'est nous qui, en tant qu'œuvre de Dieu, sommes quelque chose qu'il peut regarder et dire « c'est très bien ». Et c'est ce qu'il a fait au début de la création. Il a tout regardé et a dit que ce qu'il a créé était très bon, était très bon. Et il en sera de même pour nous. Alors que Moïse était encore sur la montagne, il entendit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Aaron avait déjà façonné l'or en bas et s'occupait des objets, n'est-ce pas, de faire la statue. Lorsque Moïse descendit, tout était déjà prêt. Il entendit beaucoup de cris de joie et pensa maintenant, « Oh, c'est un grand cri de victoire. Dieu aura fait de grandes choses, a dû faire de grandes choses. » Et quand il s'est approché, il a vu ce qui se passait. Il a vu la danse autour du veau d'or et s'est mis dans une telle colère qu'il a brisé les tables sur lesquelles tout cela était écrit. Et tout simplement, il était stupéfait. Il a pris le grand marteau et a brisé cette statue et a mis la poussière dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait boire les gens ou pas, n'est-ce pas, etc. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas du tout, je ne l'ai pas lu hier. En tout cas, il y avait une grande détresse parmi le peuple. Et vous, mes frères, mes chers frères et sœurs, nous devons penser à nous aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Frère Branham, à William Branham? Pensons à cela. Les uns ont dit, il est la parole. Les autres ont dit, il est le Fils de l'homme. Ceci ou cela. Et cela n'a pas plu à Dieu. Et de même, nous devons faire très attention. Quand quelqu'un dit « serviteur du Seigneur », d'accord, mais gardez cela pour vous. Je ne veux pas que quelque chose d'autre se répande. Cela ne doit pas être, devenir le nom de quelqu'un. Toute la gloire revient au Seigneur. Et il est écrit, quand nous aurons fait tout ce que le Seigneur nous a commandé, dites-le. Nous sommes des serviteurs inutiles ou misérables. Et ça, je le pense de tout mon cœur. S'il y a eu quelqu'un parmi ceux que Dieu a appelé à annoncer sa parole, je ne peux pas le nier que le Seigneur m'ait appelé et je ne le veux pas. Je ne veux pas le nier car il n'y a aucune raison de le faire. Un appel est un appel et Dieu ne peut pas s'en repentir. Dieu ne peut pas l'annuler. Mais nous devons faire très attention. Vous connaissez les Actes des Apôtres? Quand Dieu a fait de grandes choses par les mains, je crois, des deux apôtres, ils ont voulu leur offrir des sacrifices. Et ils ont dit, les dieux ont pris forme humaine. Je crois que ce n'était pas 24 heures plus tard que Paul était lapidé à l'extérieur de la ville. Les hommes n'ont pas encore changé. L'esprit d'idolâtrie s'infiltre très rapidement, très vite, et cela ne doit pas se produire. Et déjà, les gens ne sont plus appelés par leur nom. Non, il s'agit uniquement de l'œuvre de Dieu, pas de l'homme qui se tient dans l'œuvre de Dieu. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de votre mépris non plus, mais nous méritons déjà d'être entendus parce que nous avons la parole de Dieu. Car les Saintes Écritures disent, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous accueille, m'accueille. Tout a sa raison d'être. Mais alors, les limites sont déjà fermées. Alors, tout est fermé. On n'a pas le droit de sortir de ces limites-là. Et si cela n'est pas le cas, où on fait des distinctions entre les frères, vous savez, nous avons eu un temps où nous ne sommes pas attendus à la prédication, mais attendus à ce qui allait arriver après la prédication. C'est comme si pendant tout le temps de la prédication, Dieu ne parlait pas, mais que Dieu allait commencer à parler après la réunion. On attendait plutôt les prophéties après la prédication. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ceux qui exerçaient des dons dans l'église ont été élevés. Et ce sont des gens, des hommes et des gens qui font ça. Et Dieu-là n'a pas plu au Seigneur. Il a veillé à ce que nous soyons ramenés à la réalité. Vous voyez, même si c'est avec peine que ça s'est passé, pour cela aussi nous sommes reconnaissants à Dieu de tout cœur. Mais il y a plus au verset 42. Verset 42, et cela m'attriste beaucoup. Vous savez, je n'ai jamais été prédicateur de morale et probablement pas non plus prédicateur de jugement. Mais il y a vraiment là quelque chose que nous devons prendre à cœur. Verset 42. Alors Dieu se détourna d'eux et les livra pour servir l'armée des étoiles du ciel. Regardez, Dieu se détourna d'eux et les livra à autre chose. Alors Dieu se détourna d'eux et les livra. Quand on lit que Dieu s'est tourné vers eux, il y avait de la joie. N'est-ce pas? Alors, c'est quelque chose d'exaltant, de réjouissant, mais quand on lit que Dieu s'est détourné d'eux, on pourrait pleurer. Lorsque Dieu se détourne d'un homme, d'une église, de son peuple, que reste-t-il alors? Une forme extérieure de piété. Et l'exploitation que nous faisons nous-mêmes, c'est tout ce qui reste. Mais lorsque Dieu se tourne vers nous, les choses changent. Alors vient une vie nouvelle. Alors vient l'amour, la joie, la paix dans le Saint-Esprit. Ici, Dieu s'est détourné de son peuple élu. Et la raison vient tout de suite. Verset 42. Alors Dieu se détourna d'eux et les livra pour servir l'armée des étoiles du ciel, ou bien alors pour adorer les étoiles et les choses, l'armée du ciel, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des animaux de boucherie et des sacrifices pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Est-ce que vous m'avez offert, est-ce que c'est à moi que vous avez offert des sacrifices? Dieu voulait des sacrifices. Ils étaient bibliques, mais le cœur des hommes était depuis longtemps au milieu de l'idolâtrie et non dans le service divin. C'était seulement une forme extérieure. Quoi qu'ils sacrifiaient des sacrifices, mais c'était pas, Dieu dit, c'est pas à moi que vous avez sacrifié. Avez-vous compris cela? Et Dieu s'est détourné d'eux. Bien sûr, il les a encore nourris, il les a encore abreuvés. Et dit plus tard, pendant 40 ans, malgré tout, j'ai eu du dégoût pour ce peuple. Vous voyez? Et imaginez-vous cela. Malgré tout, la bénédiction était là, nourrie quand même, avec la manne, faire boire quand même du rocher. Il s'agissait de l'histoire du salut. Si Dieu avait totalement laissé tomber Israël, il aurait dû laisser tomber son plan. Et cela ne pouvait pas. Dieu ne pouvait pas le faire. Frères et sœurs, bien-aimés, il en va de même pour nous. Nous, Dieu nous aurait parfois laissé tomber s'il ne s'agissait pas du plan de salut de Dieu. S'il n'y avait pas une œuvre de Dieu et un plan de Dieu dont nous sommes devenus une partie, Dieu nous aurait laissé tomber. Et nous aurait dit, suivez vos propres voies, faites ce que vous voulez. Mais Dieu ne le peut pas. Dieu ne peut pas le faire. Il doit aller jusqu'au bout. Que cela lui plaise ou non, jusqu'à l'achèvement. Il a été sacrifié. Oui, mais à qui? Pas à Dieu. À qui Dieu a-t-il été? Non, ils n'ont pas sacrifié ça à Dieu. Le cœur étaient éloignés de ce qu'ils faisaient. L'obéissance n'était pas là dans leur cœur, dans leur vie. La foi n'était pas présente. C'était seulement une forme extérieure. Oui. Qui était alors servi? À qui avez-vous offert des sacrifices? Et la réponse se trouve au verset 43. Non, vous avez porté la tente de Molor et la statue d'étoile du dieu Réphan, les idoles que vous aviez fabriquées pour les adorer. C'est pourquoi les idoles que vous aviez fabriquées pour les adorer, c'est pourquoi je vous ferai transporter au-delà de Babylone en exil. Que s'est-il passé? Il restait le peuple de Dieu, mais la colère de Dieu était sur eux. Pas de joie. C'était comme je viens de le dire, l'histoire du salut. L'assemblée du Seigneur devait suivre, l'église du Seigneur, pardon, devait suivre d'un Nouveau Testament. Et c'est pourquoi voici la préhistoire. Et Dieu n'a pas abandonné, il a porté, il a ensuite toujours eu un reste. Ceux qui sont restés fidèles, tout simplement, au milieu de l'apostasie, au milieu de l'éloignement de Dieu, et au milieu de l'éloignement de lui, la séparation avec lui, et notre frère Lancia, ils ont dit, n'est-ce pas, que nous ne devons pas sacrifier au Seigneur n'importe quel animal qui a un défaut. Je ne sais pas si c'est tout à fait, ça a été compris par la traduction. J'espère que cela est sorti. Il est certain que je n'ai pas lu récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça dans Lévitique, n'est-ce pas? L'animal ne devait pas avoir de défaut. Il devait être sacrifié à Dieu pour libérer le sacrifiant de tout défaut, afin que le sacrifiant soit agréable à Dieu et parfait, et soit parfait devant Dieu. C'est pourquoi l'animal sacrifié devait être parfait. Et qu'est-ce que c'était? Si vous lisez d'autres passages de l'Écriture, qu'ont-ils pris dans le troupeau? Le boiteux, le malade, et ils l'ont offert au Seigneur. Oui, que voulait Dieu en faisant cela? C'était seulement la foi extérieure, mais ils n'étaient pas obéissants. Ceux qui sacrifiaient étaient pleins de défauts, boiteux, etc. On a vu que ils ont perdu le respect devant Dieu. Tout s'est perdu. Il ne reste que la forme extérieure du service divin. Oui, comme était ce au jour de notre Seigneur lui-même. Qu'a-t-il raconté, rencontré sur la terre? Beaucoup d'activités religieuses. Mais oui, cela montait et descendait vigoureusement, n'est-ce pas? Ils allaient et venaient à la réunion. Et qu'a-t-il dit? Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait un repère de brigands. Il avait des choses à dire quand il était sur la terre. Puis il a pris le chemin du mont des Oliviers. Et il a dit, jetant un regard en arrière sur Jérusalem, il a pleuré, il a dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble sa couvée ou ses petits, et vous n'avez pas voulu. C'est une chose glorieuse que de savoir que l'on a été choisi, on a été élu, et une chose merveilleuse que de savoir que l'on appartient au peuple de Dieu. Mais il y a plus encore. Si quelqu'un pense qu'il a été choisi et malgré tout il suit c'est son propre chemin, ses propres voies, ses propres volontés, etc., il fait ce qu'il veut, et ainsi de suite, ce n'est pas possible. La désobéissance est encore aujourd'hui le péché de la sorcellerie, et la volonté propre, notre propre volonté, est comme l'idolâtrie. Ici, les hommes ont imposé leur désobéissance, vous voyez, ils ont imposé leur propre volonté, et tout cela n'était plus un service rendu à Dieu. Tout cela était que de l'idolâtrie, avec une forme extérieure de piété. Peut-il en être autrement aujourd'hui? Lorsque nous imposons notre volonté en tant qu'être humain, où est alors la volonté de Dieu? Si c'est notre volonté que nous faisons, où est alors la volonté de Dieu? Ou que faut-il faire? Que prions-nous dans le Notre Père? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, bien-aimé. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne suis pas un homme, je n'ai pas ce cœur-là. Dieu l'a donné au frère Rousse quand il s'agit d'avertir, de corriger. Aucun homme ne peut le faire comme le frère Rousse. Il a la colonne vertébrale, un homme qui n'a pas d'égard, qui peut dire simplement quand il s'agit d'avertir et de corriger et de reprendre comme personne d'autre ici. Il peut le faire. Mais quand nous lisons de tels passages bibliques, que devons-nous en dire? Rien du tout, n'est-ce pas? Les prendre à cœur et se demander, Dieu Tout-Puissant, quelle est ma position devant toi? Quel est mon état devant moi? Quelle est ma position? Comment me situes-tu? Comment nous considères-tu en tant qu'Église? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Nous aimerions peu que Dieu fasse de grandes choses, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas? Il le fera. Est-ce que cela lui demande un effort de faire quelque chose de grand? Dieu n'a pas besoin de s'élever. Il lui suffit de voir un peuple sur terre parmi lequel il peut faire de grandes choses, qui le croit, qui lui obéisse, qui le suit, qui le sert. Et alors, déjà de telles grandes choses. Déjà, ça c'est déjà quelque chose de grand que se passe parmi le peuple de Dieu. Si nous sommes obéissants et suivant le Seigneur, et faisant sa volonté, une telle grande puissance de Dieu sera alors manifestée. Je pense que nous pourrions utiliser cette heure de l'après-midi pour nous examiner devant le Seigneur, nous examiner vraiment de tout notre cœur et dire, Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as choisi, tu nous as élus. Je te remercie de ce que tu nous as envoyé, le prophète, de ce que tu nous as envoyé, le message, etc. Il y aura toute une liste qu'on pourrait énumérer de ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est à nous de jouer. Maintenant, c'est à nous, c'est notre temps. Je veux dire, vous savez que le Seigneur est apparu à Moïse sous la forme d'un ange du Seigneur dans la flamme de feu. Il a parlé et a dit, enlève tes souliers, tes chaussures, car le sol sur lequel tu te tiens est un sol saint. Une mission, un mandat divin, un envoi divin. Mais le peuple n'a pas voulu entendre, n'a pas voulu écouter et obéir. Ils s'égarèrent avec leur cœur, aussi avec leurs pieds, dans leur corps. Ils suivaient la colonne de feu extérieurement. Quand elle s'élevait, ils s'élevaient aussi. Mais où était leur cœur? Où était l'obéissance? Où était l'accord avec Dieu? Extérieurement, tout était en ordre. Comme ils disent, oui, en ce moment, Dieu est apparu dans la colonne de feu. Oh, qu'il en soit remercié. Nous le croyons aussi. Mais cela ne suffit pas. Dieu veut que lorsqu'il se lève et que nous nous levons aussi, il veut alors pouvoir bénir. Il veut alors aller de l'avant avec nous. Pas une rébellion intérieure. Je ne crois pas que nous ayons parmi nous des personnes qui se rebellent intérieurement contre Dieu. Je ne le crois pas du tout. Mais il se pourrait qu'il y ait encore certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu dans notre vie, de sorte qu'il ne puisse pas agir comme il le souhaite au milieu de nous. Et je m'y inclus. Je dis de tout cœur, ô Dieu, fais-moi savoir ce que je dois abandonner, ce que je dois faire pour te plaire par toute ma vie pour te servir. Regardez, ici, pendant 40 ans, ils ont sacrifié, et encore une fois, à qui ont-ils sacrifié? On a lu. Ils ont sacrifié cela aux idoles, en fait. Ce n'était pas un service rendu à Dieu. C'était de l'idolâtrie, ce n'était pas un service divin. Ils ont fait des repas. Ils ont, n'est-ce pas? Ils ont sacrifié à Moloch et à la constellation des étoiles, etc. Ils ont même porté ces choses avec eux, ces statues. Et ils portaient ces idoles avec eux. Un homme doit s'imaginer cela, hein? Est-ce que cela est possible? J'en ai fait l'expérience une fois. Cela n'a pas vraiment sa place ici, mais je le dis quand même. Une fois, j'ai aidé une vieille dame à déménager. Elle était très catholique. Et soudain, elle a dit, non, s'il vous plaît, ne touchez pas à cela. Je vais moi-même déplacer cela. Et puis, c'était un truc comme ça, un truc en métal. Et c'était le soi-disant Saint Christophe. Et en tout cas, elle voulait pas que je le touche. Parce que, elle a dit, vous savez, comme je suis protestant, elle veut pas que je touche à son soi-disant Saint Christophe. Hein, je ne sais même pas qui c'était dans l'Église catholique. En tout cas, bref, vous voyez, parmi le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, à qui il avait été justement dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi, etc. » Et même pas une représentation de ce qui est au ciel et sur la terre, et ne les adore pas, ne les sert pas, etc. Ne te présente pas devant eux. Le premier commandement est le plus long. N'est-ce pas? Ou bien vous ne l'avez pas remarqué, le premier commandement est le plus long. c'est le plus long. Car c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Ça, c'est le commencement. Si le commencement n'est pas correct, alors comment est-ce que le reste, la suite des commandements devrait être observée? Mais vous voyez, ce peuple élu, Israël, et Abraham, et Isaac et Jacob, à cause d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ils ont été choisis. Et vous voyez, comme je l'ai déjà dit, Dieu a fait l'histoire du salut et a porté ce peuple. Dans sa patience, déjà, Moïse disait, si tu abandonnes ce peuple, tous les autres peuples diront que tu n'as pas été capable de mener ta chose, ton œuvre, ta cause jusqu'à la fin. Et Dieu est capable de mener sa cause, mais il veut un reste fidèle. Et il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, m'a posé une question. Un bien-aimé frère, il est écrit dans l'Apocalypse que le Seigneur viendra alors avec ses fidèles, ses bien-aimés et ses saints. Il s'agit en tout cas d'une liste de trois choses. Je n'ai pas le passage en tête pour le moment. Et ensuite, il a voulu diviser qui seront les fidèles et qui seront les saints et ainsi de suite. J'ai dit, bien-aimés frères, les fidèles sont les saints et les saints sont les fidèles et ainsi de suite. Que devons-nous diviser longtemps? Soyons tous, tout ce qui est écrit, regardons tout ce qui est écrit et alors nous formerons la troupe dont il est question. Il ne s'agit pas de diviser les choses, mais bien-aimés, il ne s'agit pas de diviser les choses, mais de comprendre et de devenir nous-mêmes ce dont Dieu nous a destinés. Et c'est ce que nous avons placé ici ce matin sur le chandelier. Dieu voulait des hommes, des fils et des filles qui portent sa nature, pas la nouvelle naissance, portent la vie et la nature de Dieu lui-même. Et que nous attendions plus rien d'autre que l'achèvement de son œuvre, c'est-à-dire le changement de notre corps pour apparaître à l'image du Seigneur lui-même. Dieu nous aidera. Il sera avec nous. Combien de personnes ont été bénies par cette parole que nous venons d'observer? Je crois, nous tous, nous avons simplement le désir, ô Dieu, viens à ton droit, reçois ce qui te revient de plein droit, fais ce qui te plaît, que notre volonté soit vraiment la tienne. Et il y a un passage de l'Écriture, celui qui aime quelque chose plus que moi, n'est pas digne de moi, dans les évangiles quelque part. Revenons au premier amour, vraiment, à ce qui plaît à Dieu, le Seigneur, et tout ce qui le concerne, et à tout ce qui est lié à ce qu'il fait maintenant. Mettons-le à la première place, et alors sa bénédiction reposera sûrement sur nous. Malheur à nous, s'il devait s'irriter, bienheureux sommes-nous, s'il peut se tourner à nouveau vers nous, en nous bénissant dans sa grâce. C'est ce que nous souhaitons tous. Et nous lui demandons aussi de nous accorder la grâce maintenant, alors que nous allons entrer dans la prière, de tout dire et de tout déposer devant lui, afin qu'il puisse faire lui-même le ménage dans notre cœur, dans notre vie, dans l'Église en général, pour qu'il puisse avoir de la joie parmi les siens et se sentir bien au milieu de nous. Le sang parle pour nous, nous le croyons tous. Le sang de l'agneau parle pour nous. Jésus-Christ est encore souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Sinon, il aurait dû changer souvent. Mais vous savez qui était Melchisédek et qui est Melchisédek. Melchisédek, il n'avait ni commencement, ni fin, ni père, ni mère, ni généalogie. Il était le Seigneur lui-même, roi de Salem, roi de paix, Seigneur de gloire. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et son sang parle aussi pour nous aujourd'hui. Ne soyons pas abattus. Déjà dans l'humilité et l'examen de soi-même, mais malgré tout dans la confiance. Nous sommes, peut-être que je peux le dire, nous sommes sauvés. On peut ou peut-être puis-je encore le dire brièvement, cela, il doit en être ainsi pour ceux qui veulent vivre et expérimenter la guérison divine. Ils ne peuvent pas seulement venir et dire, Seigneur, tu sais que je suis malade et ainsi de suite, mais guéris-moi. Non, il faut que la foi s'installe d'une manière ou d'une autre dans leur cœur, que l'inspiration vienne et que la révélation leur fasse comprendre qu'ils ont déjà été guéris parce qu'il a porté mes maladies. Il s'est chargé de mes douleurs. Il a été meurtri à cause de nos péchés. Le malade doit recevoir une telle révélation de foi qu'il s'agit d'une œuvre déjà accomplie. Et alors seulement, la guérison peut lui être accordée. Il en va de même pour nous. Nous avançons devant et nous remarquons et reconnaissons toutes nos misères et tous nos manquements, toutes nos transgressions, toutes nos fautes, tous nos péchés, fondamentalement tout. Et nous arrivons si courbés et si humbles, autant qu'on peut l'être, mais au fond de notre cœur, quelque chose nous dit, j'ai pris tout cela de toi. Je l'ai ôté. Je t'ai accordé la réconciliation. J'ai versé mon sang. Je vous prends, je vous reçois tel que vous êtes. Le pardon et la grâce vous sera accordé ou alors vous est déjà accordé. Lorsque nous prions, nous ne nous arrêtons pas à mi-chemin, mais pénétrons dans la grâce de Dieu et commençons à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée et qui nous attire en quelque sorte en tant que personnes qui veulent, comme nous le chantons dans un cantique. Regarde, nous voulons, Seigneur, tu le sais, ne marcher que selon ton esprit. Nous voulons. Et si nous n'y sommes pas toujours parvenus, nous le disons au Seigneur. Mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas, ne restez pas couchés, mais allez de l'avant avec le Seigneur. Il fera tout bien. Il fera toutes choses bien. Lui qui a commencé son œuvre, il achèvera. Loué soit son saint nom. Amen.